Dieu de puissance, loué sois-tu.
Alors après avoir perdu et retrouvé son trône, Nabucodonosor dira encore ceci à propos de Dieu. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte, je célèbre la gloire du roi des rois, du roi des cieux. Tout ce qu'il entreprend est droit, toutes ses actions sont justes. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui se conduisent avec orgueil. Alors nous l'avons constaté à quatre reprises, Nabucodonosor reconnaît la grandeur et la souveraineté de Dieu. Alors, est-ce qu'il se serait finalement converti ? À mon sens, le texte ne répond pas à cette question, c'est sans doute pas la plus importante. Mais ce que je retiens, en revanche, c'est ceci, c'est que on peut dire des choses très justes sur Dieu, qu'il est puissant, qu'il est le meilleur de tous, qu'il est cool, mais ça ne signifie pas forcément qu'on le reconnaît comme sauveur et seigneur, et ni que qu'on s'engage à marcher à sa suite. Alors la véritable louange à Dieu n'est-elle pas celle qui nous engage, non seulement par les paroles des chants, mais dans toutes les circonstances de notre vie ? Alors donnons-lui tout.
Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
Chacun, chacune est invité à ce repas qui est le repas du Seigneur. Il nous accueille à sa table pour nous nourrir, pour nous redonner des forces, pour nous relever, pour nous libérer et nous guérir. Nous ne le voyons pas, mais il est ici parmi nous. Ça, on est certain. Le mot « scène », peut-être vous le savez, ça voulait dire « souper » ou « repas ». Donc en fait, ça se prenait pendant un repas. Nous, on ne peut pas le faire puisqu'on ne mange pas ensemble, mais c'est quand même un signe de communion, un signe de partage qui nous a été donné par Jésus lui-même. Voici la tradition que nous avons reçue du Seigneur. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, il a partagé le pain et il a dit : ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit : cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en souvenir de moi. Je vous invite à prier. Nous nous souvenons que ton Fils Jésus est venu habiter avec les humains. Il a aimé comme nous, il a pleuré comme nous, il s'est réjoui comme nous. Il est aussi mort comme nous. Mais après 3 jours, il est revenu à la vie. Nous avons alors la certitude que tu es avec nous tous les jours. Tu ne nous abandonnes pas et tu nous promets qu'un jour nous vivrons éternellement avec toi. En attendant, tu nous donnes ton esprit pour que nous soyons porteurs de joie, porteurs de lumière, d'espérance, là où nous sommes. Que cet esprit que tu nous donnes vienne nous remplir de cette paix et de cette lumière. Qu'il fasse naître en nous la vie éternelle. Voilà, nous allons rentrer dans le moment de partage du pain et du vin. Il nous faudra un peu d'aide. Il faudrait 6 personnes, en fait. 2, 3. Voilà, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Pour les questions pratiques, on va s'attendre les uns les autres. Donc, vous prenez un morceau de pain délicatement, on vous donnera un petit gobelet, et puis vous attendrez, et puis on prendra tous la Sainte Cène en même temps. Pendant ce temps, on peut aussi avoir des prières libres. Donc, vous pouvez vous exprimer. Et si vous voulez vous exprimer, levez la main que je puisse passer avec le micro. Seigneur, merci pour cette occasion de partager le vin et le pain avec des millions et des millions de chrétiens qui sont réunis sur la terre, sur cette planète. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. vous invite à partager le pain et le vin maintenant. Nous prierons encore. Nous te disons merci parce que tu es avec nous, tu es parmi nous et tu nous encourages, tu nous éclaires, tu nous donnes la vie par ton esprit. Merci parce que chaque jour, on peut se reposer sur toi, on peut te faire confiance et tu es parmi nous. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vais passer la parole à Philippe, qui va nous parler de ce chapitre 3 du livre de Daniel.
Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour à vous derrière l'écran, là-bas, loin de nous, mais bientôt, j'espère, que nous puissions nous retrouver plus largement, plus amplement. Merci beaucoup à Roxane et Raymond pour la technique. C'est dimanche après dimanche, un service qui rend service. D'ailleurs, il y a de la place, hein, si vous avez envie de rejoindre ce beau service, il y a de la place pour venir fortifier l'équipe. Merci à Raymond aussi pour les nouveaux plateaux de Sainte-Seine qui avaient été réalisés à l'occasion de la célébration du 24 décembre. Il nous fallait plus de plateaux que nous n'en avions alors. Et merci à Raymond de les avoir réalisés. J'aime bien ce matériel en bois. Ce matin encore, j'aimerais donc vous parler un peu du tyran Nabucodonosor. Nous verrons de nouveau son immense orgueil, ses colères, sa cruauté, ses déséquilibres. Nous ne verrons pas Daniel. Il a été nommé gouverneur de province. Nous ne verrons pas Daniel, le témoin fidèle, qui, à ce moment-là, devait être ailleurs. Mais nous verrons ses trois amis, des témoins fidèles aussi. Je vous ai dit dimanche dernier que je ne pouvais pas croire que Nabucodonosor s'était réellement converti à Dieu. Ce qui l'empêchait pas, comme tu l'as remarqué, de dire des choses justes. On peut dire des choses justes sur Dieu sans être à lui. Chapitre 2, que nous avons survolé dimanche dernier, il a donc eu ce rêve absolument effrayant. Il a reçu une interprétation claire et étonnante. Et il a dit la grandeur du Dieu des Juifs, il l'a confessé de ses lèvres. Mais il est resté un tyran qui s'intéressait surtout à ce que les dieux pouvaient faire pour lui. Lui, ce qu'il voulait, c'était se mettre Dieu de son côté, dans sa poche. Son rapport à Dieu était un rapport intéressé. Il fallait que ça lui rapporte. La preuve de ce que ces paroles de conversion n'étaient que des mots, la preuve que ces paroles de la fin du chapitre 2 n'étaient qu'un vernis de surface, cette preuve nous la trouvons au chapitre 3 de Daniel, dont nous voulons écouter ou suivre la lecture maintenant. Daniel 3.
Alors le roi Nabuchodonosor fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut. 30 mètres, c'est plus qu'un étage, plus que 10 étages d'un immeuble, peut-être 12 étages, c'est énorme. Il la dressa dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoya des messagers convoquer les satrapes. Les satrapes, je ne savais pas ce que c'était. C'est des gouverneurs de satrapie. Bon, ça n'aide pas beaucoup. On pourrait parler ça, de, comme en France, de région. Donc, c'est un gouverneur d'une certaine région. Il convoqua les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les fonctionnaires de province. Donc, tout du beau monde responsable. Ils devaient venir pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait fait dresser. Alors tout ce beau monde, donc les satrapes, les préfets, gouverneurs, conseillers, trésoriers, juges, magistrats, tous les fonctionnaires, se rassemblèrent et prirent place devant la statue dressée par le roi Nabuchodonosor pour la fameuse cérémonie d'inauguration. Le maître de cérémonie cria d'une voix puissante, « Gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues, écoutez l'ordre que voici. » Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que le roi Nabuchodonosor a dressée. Il y avait une menace. Si quelqu'un refuse de se prosterner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Donc les gens étaient avertis. Ainsi donc, dès qu'ils entendirent jouer de tous ces instruments, tous les peuples de tous les pays et de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi avait fait dresser. Maintenant, ça s'est mal passé, puisqu'il y en a qui ont cafeté, si j'ose dire. Aussitôt après, quelques Babyloniens vinrent accuser les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent « Que le roi vive pour toujours. Mais tu avais donné un ordre. Tout être humain devait se prosterner pour adorer la statue dès qu'ils entendraient jouer de tous les instruments de musique. Si quelqu'un refusait de se prosterner et d'adorer, devait le jeter dans la fournaise au feu intense. Eh bien, notre roi, il y a des hommes, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, ils n'ont pas tenu compte de l'ordre. Ils refusèrent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. Très en colère, Nabuchodonosor ordonna qu'on lui amène ces trois hommes. Aussitôt, ces hommes furent amenés en présence du roi. Le roi leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée ? Vous allez entendre de nouveau la trompette, la flûte, la cithare, la sambuque et le psaltérion, la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite ? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. » Quel Dieu alors vous sauvera de mon pouvoir ? Les trois hommes répondirent au roi, Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons est capable de nous sauver, il nous sauvera de la fournaise où brûle un feu intense et de ton pouvoir, roi. Sinon, sache bien, ô roi, que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. Alors, le roi Nabuchodonosor devint furieux et son visage se transforma devant les trois hommes. Il exigea qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Il ordonna à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise, où brûle ce feu intense. Aussitôt, on ligota ces hommes, vêtus de leurs pantalons, tuniques, turbans, enfin tous leurs habits, et on les jeta dans la fournaise. Conformément à l'ordre du roi, on avait surchauffé la fournaise. Ainsi, les soldats allèrent jeter les trois hommes dans le feu, et ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent tous les trois ligotés au corps de la fournaise où brûlait le feu intense. Vous pouvez voir le dessin à l'écran. Soudain, le roi Nabuchodonosor se leva, stupéfait, et demanda à ses ministres : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ?»« C'est exact, notre roi, » répondirent-ils. « Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure, et l'apparence du 4e ressemble à celle d'un être divin. » Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez. » Ils sortirent tous 3 du feu. Les satrapes, préfets, gouverneurs, conseillers du roi s'attroupèrent pour les examiner. Ils virent que le feu n'avait pas touché le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'étaient pas roussis, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés et qu'ils ne portaient même pas une odeur de brûlé. Incroyable, non ? Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange sauver ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. » C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, son pays ou sa langue d'origine, parle avec négligence de Dieu, cette personne sera mise en pièces et sa maison sera transformée en un tas d'ordures. En effet, aucun d'autres dieux n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor adressa le message suivant aux gens de tous les peuples, de tous les pays, de toutes les langues, habitant la terre entière. Que votre paix soit grande, il m'apparut bon de faire connaître les signes impressionnants et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis en ma faveur. Ces signes sont si impressionnants, ces prodiges sont si puissants, son règne est un règne éternel, sa souveraineté n'aura pas de fin. C'est ce que nous a lu tout à l'heure Christophe.
C'est Michaela qui réalise pour nous les illustrations de cette série et je la remercie pour sa façon de capter le texte biblique. Des statues que l'on doit adorer. C'est encore d'actualité. En Corée du Nord, dans plusieurs républiques de l'Asie centrale, la technique est encore utilisée. Les dirigeants exigent que l'on plie leurs genoux devant leur statue. Ces dernières années encore, certaines ont été déboulonnées. Et comme du temps des Babyloniens, comme du temps des Romains, il y a aujourd'hui des chrétiens et des chrétiennes qui payent un très lourd tribut à la folie des tyrans. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu adoreras un seul Dieu. Les 10 commandements, ces 10 paroles données au peuple d'Israël pour vivre libre, les 10 commandements, Exode 20, 1 à 6, sont absolument formels à ce sujet. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, dit l'Éternel. Et qui serait assez fou pour adorer un autre Dieu que ce Dieu qui les a délivrés? Tu adoreras un seul Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 bons amis de Daniel, étaient prêts à donner leur vie plutôt que d'enfreindre cette loi de base. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dans le monde aujourd'hui, des frères et sœurs chinois, japonais, vietnamiens, hmongs, cambodgiens, thaïs et j'en passe, sont confrontés eux-mêmes au même défi aujourd'hui. Offrir de l'encens, offrir de la nourriture aux esprits, rendre les ancêtres propices, sinon être persécutés dans leur propre famille, être exclus, être rejetés. En Inde, notamment dans l'état d'Odrissa, des chrétiens qui ont rejeté les 1001 dieux de l'hindouisme sont aujourd'hui massacrés. Massacrés. Dans certains pays d'Afrique, cela se joue autour de rites d'initiation traditionnels. Dans certains pays d'Afrique et d'Afrique du Nord, cela se joue même autour de l'excision pour les jeunes filles. La situation en Afghanistan se vit autour de l'observation scrupuleuse d'un islam rigoriste qui va jusqu'à arracher les yeux aux poupées pour qu'elles ne soient pas d'apparence humaine. En Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, un cher frère m'a parlé de cet enterrement en présence de toute une brochette de sorciers locaux venus là parce que le défunt était resté de leur côté tout en se réclamant de la foi chrétienne. Et je sais que certaines traditions chrétiennes prônent de la tolérance pour les cultes païens, sous prétexte que les gens peuvent apprendre à aller au-delà de leur statut et de leur divinité pour découvrir le vrai Dieu. Les apôtres du Nouveau Testament ne faisaient pas ainsi avec les cultes païens de leur temps. Et je vous propose que leur exemple est normatif, pas indicatif, normatif. Paul dit aux Thessaloniciens: on raconte en effet à votre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Se détourner donc des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Cela implique une vraie coupure, une certaine intransigeance que l'entourage proche ne comprend pas toujours. Ça peut créer des tensions, du rejet, de la persécution. Nous, comme chrétiens évangéliques, nous devons absolument reconnaître aux autres le droit de pratiquer et de promouvoir le culte et la foi de leur choix. Nous n'imposons rien à personne. Mais pour nous, nous ne pouvons pas accepter de compromettre ce principe fondateur. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 4 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le prophète Ésaïe en fait une démonstration. Il parle d'un vrai choix à opérer entre des idoles que nous portons, parce que c'est ça les idoles, hein, c'est porter une image de nous-mêmes. Un choix opéré entre des idoles que nous portons, des idoles qui sont sans effet, et notre Dieu qui, lui, nous porte et prend soin de nous. Je lis Ésaïe 46, les versets 1 à 8. Le Dieu Bel affaibli, le Dieu Nébo fléchi. Leurs statues sont confiées à des bêtes de somme. Ce qu'on portait en procession n'est plus qu'un chargement, un lourd fardeau pour des animaux épuisés. Les dieux faiblissent, les dieux fléchissent. Incapables de sauver leur propre statue, ils vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, gens d'Israël, survivants du peuple de Jacob, vous dont je me suis chargé dès le ventre de votre mère, vous que j'ai porté avant que vous ayez vu le jour, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai. Oui, je me chargerai de vous et je vous sauverai. À qui me comparerez-vous ? À qui m'assimilerez-vous ? Avec qui me mettre en balance pour rétablir des ressemblances ? Voici des gens qui vident l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent et l'or. Ils embauchent un orfèvre pour qu'il leur confectionne un dieu auquel ils feront des prières en se prosternant devant lui. Puis ils emportent leur dieu en le chargeant sur leur épaule et le déposent à sa place. Le dieu y reste. Il n'en bougera pas. Si on lui adresse un appel, il ne répondra pas. Il ne sauvera personne de la détresse. Rappelez-vous ceci, gens sans foi, et ressaisissez-vous. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je prendrai soin de vous, dit l'Éternel. Et là, j'aimerais relever quelque chose d'admirable dans la réponse que les trois amis font au roi quand le roi leur demande de se prosterner devant la statue. C'est au verset 17 et 18 de Daniel 3. Les trois amis disent ceci. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, même s'il ne nous délivre pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as faite ériger. Courage pour dire ça. Il faut une foi accrochée pour dire ça. Mais ce qui est le plus admirable, me semble-t-il, dans cette réponse, c'est que les trois amis savent que Dieu peut faire un miracle, bien sûr. Mais leur foi ne dépend pas du miracle. Leur foi est indépendante du miraculeux. Ils n'ont pas la foi parce que Dieu fera un miracle. Ils ont la foi, point barre. Avec ou sans une délivrance miraculeuse, ils adoreront Dieu seul. Ce n'est pas sans me rappeler des versets sur le thème de la foi en Hébreux 11, les versets 32 à 40. Que dirais-je encore ? Le temps me manque pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes, Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent les feux violents, ils échappèrent à la mort par l'épée, ils reprirent des forces après la maladie, ils se montrèrent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Des femmes virent leur mort ressuscitée et leur être rendu. D'autres ont été torturés à mort. Ils refusèrent la délivrance afin de ressusciter et de parvenir à une vie meilleure. D'autres encore subirent les moqueries et le fouet. Certains furent enchaînés, jetés en prison. Certains furent tués à coups de pierre. D'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres encore allèrent d'un endroit à l'autre vêtus de peaux de moutons ou de chèvres, pauvres, persécutés, maltraités, et le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Ces personnes ont toutes été approuvées par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, elles n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'elles soient conduites, ces personnes, sans nous, à la perfection. Relisez ce texte chez vous. Ceux que Dieu a soutenus et délivrés sont cités comme des héros de la foi. Versets 32 à 35. Puis, ceux et celles qui ont duré les pires persécutions sont cités comme des héros de la foi. Aussi, les deux, les délivrés et les non-délivrés, les guéris et les non-guéris, les héros vainqueurs et les soldats vaincus. Et ils ont en commun une seule chose, la foi. Et Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Parce que la foi est aimée et honorée par Dieu plus que toute autre chose. La foi est aimée et honorée par Dieu plus que toute autre chose. Et nous sommes invités à marcher sur leurs traces. Hébreux 12. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Si les trois amis étaient morts dans la fournaise, la Bible aurait pu nous les citer en exemple à cause de leur foi. Mais en l'occurrence, ici, Dieu est intervenu miraculeusement pour les sauver. Dans les Actes des Apôtres, Pierre a été miraculeusement délivré de la prison. Si vous êtes en tant soit peu intéressé par l'histoire de l'Église, vous pouvez lire par exemple dans un livre qui s'appelle « L'histoire ecclésiastique » d'un nommé Eusèbe, fin du 3e siècle après Jésus-Christ, des récits absolument fascinants de délivrance et de martyrs. Si vous priez, et je vous encourage à le faire, si vous priez pour l'Église persécutée, vous lirez des choses étonnantes dans le journal de Portes Ouvertes. Des choses étonnantes. Des gens délivrés et des martyrs. Dieu peut délivrer. Assurément, Dieu peut délivrer. Mais il ne le fait pas toujours. D'ailleurs, il y a la vie, hein. La vraie vie, pas la vie rêvée, la vraie vie. Et la vraie vie, elle est dure, elle est tragique parfois. Une rupture sentimentale, une rupture familiale, le découragement qui vous gagne et qui vous met par terre, la maladie, le handicap, la mort d'un proche, le mobbing, le racisme, le sexisme, l'injustice sous toutes ses formes. Dans le feu de l'épreuve, on réagit comment ? Dans le feu de l'épreuve, on réagit comment ? Par le désespoir, comme si Dieu pouvait rien faire. Par une sorte de folie mystique qui ne veut pas voir la réalité en face. Ou par une foi résolue et réaliste, comme nos trois amis. Dieu peut délivrer. Mais s'il choisit une autre voie pour moi, je le louerai encore. Et je ne cesserai pas de lui amener ce qui me brise. Et puis avant de conclure, il y a un détail dans ce récit. Un détail qui n'est pas un détail pour le tyran. Donc versets 19 à 23, il fait jeter trois hommes liés dans la fournaise. Et puis versets 24 à 25, il envoie quatre. Puis ils sont libres. C'est qui le quatrième ? Nabucodonosor dit qu'il a l'aspect d'un fils des dieux, verset 25. Le fils de Dieu ? Un ange ? L'ange de l'Éternel ? Ben, c'est pas dit. C'est pas dit. Mais il y a une chose que je comprends fondamentalement ici. C'est que dans l'épreuve, au cœur de la fournaise, Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne nous laisse pas seuls. Et ça, c'est une pépite pour la vie. David a écrit dans le psaume 23, au verset 4, « Si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Par le prophète Ésaïe, Dieu dit à son peuple, « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. » Puis en même temps, ça semble utopique, non ? Rappelez-moi combien de Juifs sont morts dans le feu ? Plus de 6 millions ? Combien de chrétiens sont morts dans le feu ? Combien de protestants lors du mouvement de la contre-réforme, sont morts dans le feu ? Combien d'huguenots sont morts dans le feu ? Et pourtant, Dieu promet d'être présent même là. Vous savez, mes amis, moi j'ai beau lire la Bible de long en large depuis un certain nombre d'années, à aucun moment, je n'y trouve ne serait-ce que la suggestion que la vie de foi nous dispense de difficultés. Ça, c'est un mythe, mais ce n'est pas dans la Bible. Ou comme disait C.S. Lewis, « Si vous cherchez une religion qui vous permette de vous sentir confortable, je ne vous recommande certainement pas le christianisme. » Et Jésus nous dit, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. » Jésus a dit aussi, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les épreuves de la vie, quand elles sont profondes, quand elles sont de longue durée, nous nous demanderons un peu à quoi ça sert, n'est-ce pas ? Nous nous demanderons pourquoi Dieu ne nous en a pas protégés. Et quand cela arrive, nous nous demandons pourquoi il ne nous en sort pas. Parfois on découvre la raison, parfois on ne la découvre pas. Parfois le feu de l'épreuve, il nous affine, et parfois le feu de l'épreuve, il nous endurcit. Mais ce qu'il est possible de savoir, et en toutes circonstances, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Jamais. Écoutons encore une fois le témoignage d'un homme qui a pas mal ramé pour sa foi, qui a enduré pour sa foi. Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons que l'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a écrit ça en 56 ou 57 de notre ère, c'est l'apôtre Paul, et il a signé cette déclaration-là avec de l'encre. Mais 10 ans plus tard, il l'a signée avec son propre sang. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a besoin de pain et de vin. C'est pour ça que nous avons une croix. C'est pour ça que nous accordons tant de valeur aux propos de Jésus-Christ. C'est que l'amour de Dieu se manifeste en lui. C'est tangible, c'est mesurable. Je conclus. À la fin du récit de Daniel 3, nous avons donc de nouveau une déclaration du tyran qui sonne bien, puis la suite va de nouveau montrer que ses paroles sont creuses. Jésus se méfiait de ceux qui croyaient en lui uniquement à cause des miracles qu'il faisait. Ce que Dieu nous demande, que nous ayons vu de sa part des choses extraordinaires ou pas, c'est la foi. C'est de croire en lui de façon résolue. Et pas en lui notre ami imaginaire, en lui notre ami proche par Jésus son Fils, par son Esprit qu'il répond abondamment, par l'Église qui manifeste sa présence dans le monde. Nous traverserons les épreuves avec lui. Parfois il nous en délivrera immédiatement et parfois non. Mais en fin de compte, nous serons vainqueurs. Amen.
Je vous propose un petit moment de silence, qu'on puisse méditer ce qui a été dit dans nos têtes. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ces rappels de la vie de tous les prophètes, la vie de Jésus-Christ, qui était dure pour un tas de gens. Ça a été extrêmement difficile, mais nous savons que tu es là, que tu nous gardes, tu gardes tous les chrétiens et que tu les bénis. Seigneur, nous te louons et de nous rappeler toutes ces paroles qui sont tellement vitales pour notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Place aux annonces. Merci, Joanne. Je crois qu'il y a Claudie aussi, je ne sais pas.
Bonjour à chacun. Alors, pour commencer les annonces, je propose que Denise vienne nous parler de cette journée particulière.
Merci. Oh là là, je trouve difficile de prendre la parole après un tel message. J'ai mon cœur qui va dans tous les sens, là. Mais je suis quand même contente de prendre la parole. Je voudrais vous parler de la mission Lèpre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre. C'est fixé le dernier dimanche de janvier, donc c'est aujourd'hui. Cette journée permet de sortir de l'oubli toutes les personnes qui sont atteintes de la lèpre. Pour ceux qui ont peut-être traversé le pont du Mont-Blanc ou longé les quais ce week-end, il paraît que le jet d'eau était coloré d'orange justement pour marquer cette journée, en faveur de tous ceux atteints de maladies tropicales, dont la lèpre. Dans les pays où elle sévit, c'est une opportunité de rassembler les personnes atteintes par la lèpre et des communautés où elles vivent, afin de les sensibiliser à ce terrible fléau. Dans nos pays, c'est la possibilité d'en prendre conscience et de récolter des fonds pour soutenir la lutte contre cette maladie, gravement handicapante en cas d'absence de diagnostic précoce et de soins appropriés. À notre niveau, ici à Mérin, nous pouvons participer à cet effort soit par des dons financiers ou par la récolte de timbres postes usagés et de vieilles cartes postales. Bien sûr que le produit de leur vente, même minime, permet de petits miracles sur le terrain, soit en dépistage, en soins et en rééducation de membres déformés. C'est une transformation de vie qui redonne vie, espérance et dignité. Donc, j'en profite pour ressortir la boîte qui a été longtemps, qui va reprendre sa place là-bas au fond, qui récupère tous les timbres que vous voulez bien découper sur vos paquets, sur vos lettres. Même s'il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a encore beaucoup de magnifiques timbres qui sont posés sur des messages. Donc voilà, moi je les récolte, je les envoie très volontiers à la mission contre la lèpre, qui les vend. Et il y a des petits produits qui peuvent s'ajouter au fond de récolte pour porter secours à tous ces gens-là. J'ai encore quelques petits journaux que je vais déposer là-bas sur le panneau avec la boîte. Merci pour votre attention.
Alors, pour la suite des annonces, vendredi 11 février, à 20h, une soirée louange est organisée à la chapelle. Le dimanche 6 mars, Derby des Bois. Est-ce que Claude, tu veux dire deux, trois choses en plus? C'est affiché. Donc, les inscriptions auprès de Claude Parnigoni, que vous connaissez tous. Ou si vous ne le connaissez pas, il se lève. Voilà.
Donc, ça concerne et marcheurs.
Donc, pour ceux qui nous suivent en ligne.
C'est vrai qu'on a des survêtements. On a des survêtements de l'EM. Donc, ça permet aussi d'avoir un petit message sur pattes et qui se déplace.
Donc, pour ceux qui sont en ligne, donc c'est pour marcheurs et coureurs. Hein, pas seulement coureurs, mais marcheurs. Et puis, pour l'EM, on a un petit survêtement avec un message. Et comme disait Claude, c'est un message sur pattes, qui porte du fruit, ou qui peut porter du fruit. Dimanche 13 mars, à 17h30, la boussole et le baluchon. Les flyers sont sortis, vous en trouvez à la sortie. Donc c'est Daniel, si vous avez des questions, Daniel Strubin, qui pourra vous répondre par rapport à ce petit spectacle sur le sens de la vie, sauf erreur, au carrefour de ma vie. Samedi 23 avril, le concert Adonia. Et puis dimanche 1er mai, comme on l'avait annoncé la dernière fois, culte de baptême. Il y a une petite formation, donc ceux qui sont intéressés par cette formation, vous pouvez vous adresser au pasteur. Ou si vous êtes juste curieux pour savoir ce que c'est, vous pouvez aussi vous venir voir. Donc n'hésitez pas à venir voir nos pasteurs pour ce sujet-là qui est important. Et puis encore pour rappel, les sorties d'église prévues le dimanche 22 mai pour la première et la deuxième, le jeudi 8 septembre, donc le jeudi du jeûne genevois. Et puis encore, vous rappelez que nos pasteurs sont à disposition à la fin du culte notamment, mais aussi en semaine, à la fin du culte pour des moments de prière, des moments d'échange, donc n'hésitez pas à les solliciter. Merci beaucoup.
Nous vous avons annoncé dimanche dernier le décès de Jean-Marc Strelli. Le service se tiendra ici même, mercredi après-midi à 14h. Voilà, c'est un service bien sûr qui est ouvert, mais la famille semble attendre passablement d'invités. Donc voilà, si vous étiez proche, n'hésitez pas à venir, mais sinon peut-être, merci de considérer la possibilité de laisser la place aux invités de la famille. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Un texte et une courte prière. Le texte, il est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et au verset 14. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qu'il a appelés et choisis, ceux et celles qui lui sont fidèles, vaincront aussi avec lui. Seigneur, merci de ce que, si tu nous ne promets pas la vie sans difficulté, tu nous promets ta présence parmi nous, avec nous. Alors aide-nous à apprendre à être avec toi au milieu de nos crises, afin que nous puissions expérimenter les ressources réhabilitantes de ton esprit, toujours présent. Amen. Allez en paix.